Société Générale de Belgique, la Générale, comme on dit dans le milieu, est un véritable empire. Son histoire se confond avec celle de la Belgique. Elle l'a même précédée, puisque sa fondation par le roi de Hollande, Guillaume Ier, remonte à 1822. La Générale a été associée à toutes les étapes du développement du capitalisme et du colonialisme depuis l'indépendance en 1830. La Société Générale est, et de très loin, le premier groupe de Belgique. Elle ne se confond pas, contrairement à ce que pensent certains, avec la Générale de Banque. Celle-ci n'est qu'une toute petite partie des multiples activités de la Société Générale qui est un holding. Un holding, c'est une société financière qui contrôle des participations dans des entreprises financières ou industrielles. On retrouve la Générale pratiquement dans tous les domaines d'activité en Belgique et dans le monde. La banque, l'énergie avec Petrofina, Tractebel, Electrafina, les métaux non ferreux avec la prestigieuse Union Minière, la chimie, le diamant, le ciment, bref, la Société Générale est un monument de l'histoire industrielle et financière de la Belgique et elle joue toujours un rôle central dans l'économie belge. De manière très symbolique d'ailleurs, les bâtiments de la Générale bordent l'un des quatre côtés du parc de Bruxelles, juste en face de la résidence du Premier ministre, avec à sa droite le Palais Royal et à sa gauche le Parlement. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle parfois le quatrième pouvoir. Et la Générale n'a pas que des amis, comme en témoignent ses nombreux sobriquets, la pieuvre, la baronnie francophone, comme l'appellent certains flamands, ou la vénérable dame.
Alors, Béatrice Delvaux, il y a dans cette description un brin caustique avec la musique, notamment très monarchiste, comme ça. Est-ce que le portrait vous semble bien tiré ?
Oui, tout à fait, parce que c'est un portrait à la fois qui donne l'importance politique, enfin de pouvoir. Il y avait beaucoup de pouvoir royal. Ça donne aussi une idée de, et surtout au fil du temps, et certainement plus on se rapproche de 88, ce que personne n'avait vraiment exprimé comme tel, mais qui explose quand cet Italien vient soudain essayer de tenter de prendre possession de cette vieille dame, c'est le fait qu'elle n'était plus très aimée. Elle n'est pas aimée des Flamands, qui estiment qu'elle représente tout ce qui les a exploités, la bastion francophone, dont ils sont exclus en fait. On ne parle pas néerlandais, on ne nomme pas de patron flamand là, dans les filiales de la Générale de Belgique, et si on les nomme, c'est parce qu'ils sont de bons Belgicains. Et ensuite, il faut le dire pour nous-mêmes aussi, les journalistes, les politiques, alors autant les politiques, c'était leur interlocuteur rêvé, c'était un pouvoir équivalent avec lequel ils pouvaient faire des deals, donc ils n'ont pas du tout vu un organisme économique qui aurait dû être profitable. Et ensuite, la presse, en fait, n'a pas beaucoup analysé, et il faut reconnaître que la presse à l'époque s'intéressait peu à l'économie. C'est le début de la libre entreprise qui crée son cahier. Nous, au soir, on n'en a pas encore. Et il y a la RTBF, je pense, deux ou trois journalistes vaillants qui s'intéressent à l'économie, mais un peu dans un grand désert autour de soi. Donc nous avons aussi été un petit peu aveugles, nous l'avons laissé faire et ne pas bien se comporter, surtout ne plus être rentable.
La chute de la Société Générale de Belgique, on se replonge dans le froid de janvier 1988, où une page du pays s'est tournée.
Janvier 1988, dans un quartier cossu de la capitale, René Lamy savoure les derniers moments de calme d'un dimanche hivernal. Et le calme est précieux pour René Lamy. C'est l'un des hommes les plus influents de Belgique. Il est à la tête de la plus prestigieuse des sociétés du royaume, la Société Générale de Belgique. Et René Lamy est soucieux. Depuis quelques semaines, des titres de la société sont rachetés en bourse à un niveau beaucoup plus élevé que la normale. Et puisque beaucoup d'actions sont détenues par des petits porteurs, il est théoriquement possible qu'un acheteur gourmand prenne le contrôle de la société au nez et à la barbe de ses dirigeants. Et ça, même le journal télévisé en parle.
En Belgique, à la Bourse de Bruxelles, le record de vente de parts de la Société Générale a été battu aujourd'hui. 225 000 actions ont changé de main et on se pose de plus en plus de questions, Pierre Istas, sur cet éventuel raideur masqué ou sur toute autre manœuvre concernant la Générale.
Ce raideur masqué fait beaucoup parler de lui, mais une première chose, tout le monde, y compris à la Générale, admet effectivement qu'il y a un investisseur important qui essaye d'entrer dans le groupe. Et on peut estimer que cet investisseur a déjà mis près d'1,5 milliard sur la table. À ce ce train-là, ce n'est ni vous, ni moi, ni un quelconque petit porteur qui peut jouer dans la partie, mais en Europe, il y a quelques groupes qui disposent de liquidités impressionnantes.
Un raid sur la Société Générale. René Lamy n'y croit pas trop, mais il est brusquement sorti de ses réflexions. Voilà qu'on sonne à la porte. Le gouverneur de la Société Générale de Belgique n'attendait pourtant personne un dimanche. Il se lève et replace ses fines lunettes. Quand on dirige une société plus ancienne que la Belgique elle-même, quand on dirige un holding qui détient près d'un tiers de l'économie belge, il arrive qu'on soit dérangé en soirée. René Lamy ouvre la porte et reconnaît tout de suite l'homme élégant qui se tient devant lui. Son costume finement ajusté, sa chevelure noire, légèrement ondulée, son teint méditerranéen, Carlo De Benedetti, se présente avec une boîte de pralines de la ville où il a fait fortune, Turin. René Lamy le fait entrer, accepte les pralines. Il connaît bien cet ambitieux industriel italien avec qui il a déjà fait affaire. Mais ce soir, la conversation sera brève et peu cordiale. Carlo De Benedetti est venu dire à René Lamy qu'il a déjà racheté en douce 18% des actions de la Générale et qu'il a l'intention de continuer jusqu'à devenir l'actionnaire de contrôle et diriger la société. Stupéfait, René Lamy reconduit Carlo De Benedetti et se rue sur son téléphone. Ainsi commence l'OPA qui va changer le visage de l'économie belge. Le matin du 18 janvier, l'offensive sur la Générale de Belgique éclipse toutes les autres actualités.
Bonjour, voici nos titres et tout d'abord ce communiqué du Palais Royal. Le roi demande à Monsieur Billy Klass de poursuivre sa mission de négociateur. L'autre événement de la matinée est d'ordre financier et il est important. Le ministre des Finances suspend la cotation en bourse des parts de réserve de la Société Générale. On connaît en effet aujourd'hui le nom du mystérieux raider. Le financier inconnu est l'italien Carlo De Benedetti. Il s'est déjà approprié une part importante des actions de notre holding numéro 1. Et ce midi, Monsieur René Lamy, gouverneur de la Société Générale, recevait la presse. Dernier titre belge de notre journal, l'ouverture aux assidus.
La Générale de Banque, Petrofina, les ASEC, l'Union Minière, la FN, Tract et Bell. Vu les sociétés détenues par la Générale, l'OPA passerait presque comme une OPA sur la Belgique. Et l'orgueil des dirigeants de la Générale est piqué au vif. Ils ne veulent pas voir partir leur fleuron. Ce sera donc à la guerre comme à la guerre. Juste après la visite de Carlo De Benedetti, René Lamy réunit en urgence les hommes forts de la Générale, dont Étienne d'Avignon. Pour éviter de perdre le contrôle, il lance une augmentation de capital de 20 milliards de francs belges. Objectif, diluer les parts que détient déjà Carlo De Benedetti. Pour l'annoncer, le gouverneur René Lamy organise une conférence de presse. Lui, d'habitude assez réservé, ne cache plus sa colère.
La démarche qui est faite auprès de nous est une démarche impérialiste qui dit « Je veux être l'actionnaire de contrôle. » Et c'est bien d'actionnaire de contrôle dont il a été question, et pas d'actionnaire de référence. C'est une expression cosmétique inventée par après.
Démarche impérialiste, prise de contrôle, les dirigeants de la Générale tentent de jouer la carte du patriotisme pour mobiliser les petits porteurs et les politiques contre Carlo De Benedetti. Lui prend son bâton de pèlerin. Il va d'abord voir les ministres qui sont, on est en Belgique, en affaires courantes. Carlo De Benedetti se rend aussi très disponible pour les médias. À la télévision, le dimanche midi, il refuse que l'on parle de lui comme un prédateur.
Je ne suis pas un prédateur, je suis un investisseur. Je suis un bâtisseur. Les 30 ans de travail de ma vie, et ce que même vous avez annoncé en disant que j'ai fait un redressement spectaculaire de d'Olivetti, ce n'est pas la seule chose que j'ai fait dans ma carrière d'industriel, ne justifie pas qu'on me appelle avec un autre nom que le mien, c'est-à-dire industriel ou bâtisseur.
Carlo De Benedetti avance donc ses pions dans cette partie d'échecs financiers. La Générale avance les siens. Mais malgré son augmentation de capital en urgence, les dirigeants ne peuvent cacher l'évidence. La plus puissante holding de Belgique est vulnérable. Alors, d'autres vont tenter leur chance. La partie d'échecs tourne au poker mentor quand l'industriel flamand André Leysen se lance lui aussi dans la course et achète massivement des actions.
Adresse maintenant à Monsieur de Benedetti. Et je dis, acceptons tous les deux la réalité qu'il y a deux blocs. Et je puis dire ça aujourd'hui parce que je me sens fort. Si je serais faible, je ne pourrais pas dire cela. J'ai montré que nous sommes capables de réunir 30 milliards en 8 jours. Donc je me sens fort. Donc je lui tends la main.
André Leysen tente de jouer l'ancrage belge contre l'italien de Benedetti. Mais il ne parviendra pas à convaincre. Trop peu d'investisseurs souhaitent sauver la Générale, surtout au nord du pays, où elle apparaît comme l'incarnation arrogante de la Belgique de papa, dominée par les nobles francophones. Et de francophone, c'est finalement un troisième acteur, français, qui joue les Chevaliers Blancs, la compagnie financière de Suez. Pour triompher, Suez veut rassurer et s'allie Maurice Lippens, homme d'affaires francophone, noble, il semble taillé pour le rôle. Suez et Carlo De Benedetti s'arrachent les actions. Fin mars, l'Italien annonce enfin avoir la majorité. Mais le lendemain, Maurice Lippens et Suez annoncent l'inverse.
Le contrôle, il a encore dit hier, c'est moi qui aurai la stratégie, c'est moi qui aurai le management, avec 43%. C'était un peu risqué de dire ça hier, étant donné qu'aujourd'hui nous annonçons que nous avons la majorité.
Pour départager Carlo De Benedetti et Suez, une assemblée générale extraordinaire est convoquée le 14 avril. Les petits porteurs sont présents par centaines. Il y a ceux qui soutiennent Carlo De Benedetti et ceux qui soutiennent Suez. Les passions sont vives.
C'est malheureusement des étrangers qui ont pris le pouvoir chez nous.
Hein? Je voterai contre le juif Benedetti. Ça oui, certainement.
Non, c'est pour monsieur de Benedetti.
C'est vrai.
Oui, monsieur.
Ah, c'est parfait, ça.
On dit que tous les Belges sont avec lui.
Je pense que tout le monde est approvisionné avec des œufs pourris, des choses comme ça.
Lors de l'Assemblée, un huissier constate que 51,7% des parts appartiennent à Suez, contre 47,5% pour De Benedetti. L'Italien a perdu, les Français ont gagné. Un pan entier de l'économie belge vient de passer sous pavillon bleu-blanc-rouge. Une fois la poussière de ce combat sans merci retombée, Carlo De Benedetti revend ses parts à ses adversaires dans une paix des capitalistes. Il conclut.
On a fait un changement, on a réalisé, je crois, un changement dans les habitudes du monde financier européen à travers un événement qui va laisser des traces profondes, pas seulement sur la Société Générale de Belgique, mais je crois en général dans le milieu financier européen.
Ainsi se tourne une page du capitalisme belge. Les centres de décision économique seront désormais très largement situés à l'étranger, à la différence de l'Allemagne, de la France ou des Pays-Bas, la Belgique n'a pas voulu, pas su ou pas pu protéger l'ancrage de son économie. Dans les années qui suivirent, les promesses d'ancrage belge données par Suez volent en éclats. Suez, devenu Engie, cède les principales participations. Electrabel et ses centrales nucléaires sont restés comme les derniers joyaux de la couronne au sein d'Engie. La Société Générale de Belgique, elle, a définitivement cessé d'exister en 2003.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Nathan N.
Béatrice Delvaux, replongeons-nous donc dans cette année 1988 où le destin de la Générale a basculé, où un tiers de l'économie belge a changé de main pour arriver chez Suez, désormais Engie qui a vendu la Générale par appartement, saucissonnant la Générale, on va y venir. Mais avant, sur ces quelques semaines de suspense, comment expliquer d'abord qu'une société aussi importante que la Générale ne soit pas protégée contre le risque d'OPA, d'offre publique d'achat ?
La première raison, c'est parce que je pense qu'ils n'ont jamais cru que ça leur arriverait. On voyait ça très bien à la conférence de presse de René Lamy, qui n'a jamais pensé donner une conférence de presse à autant de monde et devoir s'expliquer. Il ne s'expliquait jamais sur rien, d'ailleurs. Et la difficulté, ils avaient compris que la générale était un peu en difficulté, parce qu'ils avaient fait venir à l'époque Étienne d'Avignon, qui venait de faire son mandat de commissaire à l'acier, qui avait performé comme vice-président de la commission avec Delors, et qui était venu, en fait, pour prendre la place, la succession de Lamy, remettre un peu d'ordre. Une anecdote aussi, quand j'ai rencontré des années plus tard Alain Main, qui est un intellectuel français, qui était le grand stratège de Carlo de Benedetti à l'époque, il m'a dit, mais vous savez que c'est à cause du soir qu'on a racheté la générale de Belgique. Et je dis, mais pourquoi ? Il dit, un jour, nous sommes allés rendre visite au gouverneur rue Royale. Il faut savoir que de Benedetti était dans le noyau dur d'actionnaires amis de la générale de Belgique. C'était des gens qui se côtoyaient en Angleterre dans certains actionnariats communs. Donc c'était des gens du même monde, entre guillemets, financier.
Un peu capitalisme européen.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc, Carlo de Benedetti était plutôt vu comme un homme, un allié, en fait. Et donc, ils vont rendre visite à Carlo René Lamy, il se rend compte d'abord que c'est une société vieillotte, avec des huissiers partout, avec beaucoup d'or, etc., enfin d'apparat. Et quand ils sortent, l'édition Bourse, à l'époque du soir, est vendue dans la rue. Et ils achètent l'édition, et ils se disent, tiens, mais qu'est-ce que ça vaut, en fait, une part de réserve qui était le nom donné à l'action de la Générale de Belgique ? Et ils font des calculs très rapides, et ils se disent, mais en fait, elle vaut beaucoup plus que ce que l'action ne donne. Et donc, c'est là qu'ils décident, à un moment donné, de se dire, c'est peut-être une proie pour nous. Et donc, je pense que ça, c'est une première raison. La générale était achetable parce qu'elle n'était plus rentable. D'ailleurs, de Benedetti dira rentabilité nulle un dimanche midi à la télévision. C'était assassin. Et ensuite, l'État, en affaires courantes, ne s'intéressait pas beaucoup aux fleurons stratégiques. Et alors, vraiment, protéger des actifs, déjà, c'était au-delà de leur imagination, alors que les Hollandais l'avaient beaucoup fait dans le système capitalistique hollandais. Et en même temps, ils auraient été divisés sur le fait de le faire, puisqu'il y avait cette division communautaire entre les Flamands et les francophones. Il n'y avait pas de vision belge stratégique sur les fleurons nationaux, puisque, quelque part, il n'y avait pas de vision non plus sur la Belgique.
Éric de Keulener, pourquoi est-ce que la piste de l'ancrage belge, avec André Leysen, qu'on a entendu, c'est un industriel flamand, patron de Gewaert, qui a essayé de rassembler, mais il n'a pas réussi. Pourquoi est-ce qu'on a dû aller chercher des Français, à la générale, pour contrer l'Italien de Benedetti ?
Donc, dès le début, la stratégie choisie par René Lamy est de chercher un actionnaire de contrôle autre que Benedetti et dont le contrôle serait, espère-t-il, un peu moins effectif.
Bienfaisant pour la générale.
Voilà. Cette augmentation de capital qu'on a appelée une augmentation de capital en bonnet de nuit parce qu'elle s'était faite pendant la nuit entre la visite de Benedetti le dimanche soir.
Donc juste après les fameuses pralines, au début du récit, pendant la nuit on décide d'augmenter le capital.
Voilà. Et cette augmentation de capital est logée dans une société forte endettée et dont on espère pouvoir replacer les actions auprès d'un groupe d'amis. Et ce sera le groupe d'amis piloté par André Leysen. Cette opération-là, cette tentative-là a été écourtée parce que très rapidement, le tribunal de commerce de Bruxelles, présidé par Jean-Louis Duplat à l'époque, a déclaré cette augmentation de capital en bonnet de nuit caduque. Ce qui était une grave erreur juridique qui a d'ailleurs été cassée par le...
Mais ça, donc, le fait que le tribunal intervienne, ça a vraiment eu de l'influence sur le cours des choses, quoi.
Oui, ça a rendu impossible la mission d'André Leysen à ce moment-là, parce que déjà qu'il devait trouver de l'argent. Donc ça a été un des gros problèmes. Mais la stratégie de base choisie par René Lamy était déjà erronée. Et il s'inscrivait dans cette mentalité assez belge et assez italienne, selon laquelle on construit pour toute société des actionnariats de référence ou de contrôle.
Pour avoir de la stabilité ?
Oui, mais...
Ça veut dire quoi de référence ou de contrôle ?
Alors, on a 20 ou 30%, on construit des holdings en cascade, et avec très peu d'argent, Albert Frère et le groupe GBL détenaient à travers des cascades comme cela un pouvoir considérable avec en définitive très peu d'argent.
Béatrice Delvaux, le capitalisme francophone est mort ce jour-là alors que peut-être le capitalisme flamand est né ?
Moi, je dirais que c'est le capitalisme belge qui est mort ce jour-là. Parce que quelque part, et c'était ça un peu la caractéristique de la Générale de Belgique, c'est que c'était des actionnaires, ou en tout cas des capitalistes liés au monde francophone, des patrons d'entreprises aussi, étaient tous francophones, mais qui géraient des entreprises nationales, en fait. Et ce jour-là, oui, le capitalisme belge est mort. On avait d'ailleurs une version flamande en néerlandais de notre livre, c'était « Six mariages et un enterrement ». Et l'enterrement, c'était le titre du livre, et l'enterrement, c'était l'enterrement d'un certain capitalisme belge. Il est mort, mais est-ce qu'il avait vraiment existé finalement? Je crois que la Générale de Belgique donnait l'illusion qu'il y avait un actionnaire qui tenait un peu, qui aidait toutes les entreprises. Mais j'en allais frapper à sa porte pour tout. Et c'était un peu la belle-mère de tout ce qu'il y avait comme initiative industrielle.
C'était un capitalisme paternaliste comme ça.
Extrêmement paternaliste. D'ailleurs, les filiales s'en plaignaient beaucoup, notamment Tractebel qui a toujours été la filiale rebelle. Tractebel qui est donc l'actionnaire d'Electrabel.
Donc les centrales nucléaires.
Oui, voilà, tout l'axe énergétique fondamental. Donc ils se battaient. En fait, ils étaient fâchés sur le fait que les gens de la Générale venaient un peu, ils avaient leurs propres consultants, ils venaient donner des idées stratégiques. Donc il y avait une sorte d'opposition. Du côté flamand, en fait, ils n'avaient pas peut-être senti la notion de l'importance d'avoir un capitalisme propre, mais après cette affaire-là, eux réalisent qu'il faut qu'en fait le capitalisme est l'ancrage des sociétés, c'est le nerf de la guerre, s'ils veulent conserver des fleurons et surtout des effets de levier sur leur économie. Et donc ils créent alors, c'est Luc van den Braan qui est ministre-président de la région flamande à l'époque, qui développe un concept aidé par des économistes, il y a toute une liaison de force qui s'appelle le verankering, l'ancrage flamand. Il faut savoir qu'au même moment, au moment où la Générale est dans la suite, en fait, où va perdre ses filiales, va se constituer un bloc sur base de ce verankering, avec beaucoup plus d'intelligence stratégique et beaucoup plus de partenaires autour du projet. Ce sera la fondation du groupe KBC, où plusieurs sociétés, les agriculteurs et les financiers, vont mettre leurs œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, KBC est toujours un groupe redoutable, flamand, et qui a résisté à toutes les épreuves grâce à son verankering.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Nathan N.
Et une des conséquences importantes du rachat par Suez, c'est que les centrales nucléaires et une bonne partie de la production électrique du pays est désormais entre les mains françaises. Les Belges ne décident plus de grand-chose.
Et pourtant, au départ, Suez avait promis que l'indépendance de Tractebel, l'actionnaire d'Electrabel, était garantie, quelles que soient les décisions stratégiques, l'ancrage resterait à Bruxelles. C'est ce que disait encore